parole de jeunes. Votre émission Parole de jeunes sur les ondes de Radio Présence Figeac. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour plusieurs émissions, dans l'émission donc Parole de jeunes, je vous propose d'écouter des jeunes de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc de Figeac pour nous parler de la rafle du 12 mai 1944.
Dans le cadre d'un travail de mémoire sur les 80 ans de la rafle à Figeac, on va vous présenter ce qui s'est passé pour les raflés depuis leur passage par Montauban, la déportation, les camps et le retour.
Le 11 et 12 mai 1944, Figeac et sa région ont connu une horrible rafle perpétrée par la division Das Reich. Mais que s'est-il passé pour toutes ces personnes raflées à Figeac et aux alentours après ces deux jours de terreur?
Pendant la rafle à Figeac, 450 personnes ont été arrêtées, plus précisément 8 femmes et 442 hommes. Au total, ce sera plus de 800 personnes qui seront envoyées vers Montauban. Aux 450 Figeacois, on va retrouver d'autres personnes raflées à Morse, à Bagnac, à La Tronquière, à Cardariac, à Sousserac, à la Capelle Marival.
Que se passe-t-il après que les raflés aient quitté Figeac?
Après avoir quitté Figeac, le convoi de camions sera à Montauban. Là-bas, les 800 lotois sont gardés dans l'enceinte de la caserne des Dragons à Montauban. Les conditions de vie s'avèrent difficiles avec juste un peu d'eau et sans nourriture. Ils vivaient dans la crasse, la poussière. Les conditions d'hygiène étaient déplorables. Ce n'est qu'au bout de 48 heures qu'ils reçoivent de la nourriture grâce à la ville de Montauban et la Croix-Rouge. Les interrogatoires sont menés dans une ambiance de terreur. La Gestapo essaie d'obtenir des renseignements sur la résistance.
Quels sont les différents chemins empruntés par ces raflés?
Au bout d'une semaine éprouvante, semaine à Montauban, trois convois partent par une voie ferrée. Les deux premiers, avec les travailleurs, sont acheminés vers Paris les 18 et 21 mai, plus confortablement que les politiques. Si le premier convoi peut rejoindre Paris directement, le second est dérouté par Montargis et Melun, du fait des bombardements alliés. Après un transfert à la caserne de la Pépinière à Paris, où ils passent la nuit, ils sont embarqués pour l'Allemagne à la gare de l'Est dans des wagons de voyageurs. Il n'en est pas de même pour les politiques. Transférés dans un camp à Compiègne, ils le quittent les 4 ou 18 juin pour Nuenham ou Dachau dans des conditions éprouvantes. Les prisonnières, dont 8 figeacoises, connaissent aussi un bien triste sort. Conduites le 21 mai à la prison Saint-Michel à Toulouse, où elles doivent faire les chambres des officiers allemands. Elles sont transférées le 27 juin à la caserne Caffarelli. Le 2 juillet, elles sont entassées dans un wagon à bestiaux du train fantôme, occupé par des politiques, qui met 35 jours pour traverser la France, du fait des sabotages et des bombardements alliés, avant d'arriver en Allemagne. Ce train, tristement célèbre, arrive le 31 août, dans la nuit à Ravensbrück.
Que vivent-ils une fois arrivés en Allemagne?
Les travailleurs passent en Allemagne plus d'un an éprouvant, contraints pour la plupart à un travail exténuant dans les usines des Sudètes. Ils connaissent la faim, le froid, l'hiver, les bombardements des Alliés. Mais leur sort est infiniment moins cruel que celui des politiques qui subissent l'épouvantable destin des déportés en camp de concentration.
Quel est donc le bilan? Sur les 450 raflés de Figeac, 170, dont 3 femmes, tous politiques, ne sont pas revenus.
Et aujourd'hui, qu'en est-il de cet événement?
Le souvenir de la rafle du 12 mai est toujours vivace à Figeac et dans son arrondissement. On y trouve de nombreux lieux de mémoire, religieux ou laïcs, établissements, boulevards, rues, places rebaptisées après la guerre, plaques et monuments. C'est ainsi, par exemple, que la place des Carmes, où se trouvait la gendarmerie où furent regroupés les raflés, dans un premier temps, est rebaptisée après la guerre, place du 12 mai.
Cette année, nous célébrerons les 80 ans de cet événement tragique.
Présence.
Lors des événements du 11 et 12 mai 1944 à Figeac et ses environs sont martyrisés par des Allemands. À Morse, une jeune fille témoigne de ce qu'elle a vu. Elle s'appelle Renée Boussaroc. Le 12 mai 1944, je viens d'avoir 9 ans. Je dors au premier étage. Un grondement, des bruits de moteurs inhabituels me réveillent. Le vacarme est tout proche et semble présenter un danger. Apeurée, j'appelle maman qui ne me répond pas. Je saute de mon lit et ouvre la fenêtre et pousse les parisiens. Horreur, de gros engins de guerre, des tanks, dans un bruit fracassant, passent dans les rues, laissant des grosses traces de goudron. Des soldats, fusils au poing, marchent aux côtés de ces engins. C'est la guerre, ce sont les Allemands. À moitié réveillée et en pyjama, je descends les escaliers qui mènent à la cuisine. Mon père et ma mère sont là, blêmes et soucieux, regardent derrière les rideaux. Avant que je n'aie eu le temps d'être auprès d'eux, la porte s'entrouvre par un canon de fusil. C'est un soldat casqué d'un gros casque rond qui pointe sa mitraillette sur mon père et lui fait signe de le suivre. Je n'ai pas le temps de l'embrasser. Mon père est dehors, le canon du soldat dans le dos.
Nous apercevons que le même sort est réservé à tous les jeunes hommes du quartier. Mon père a 39 ans. Soudain, trois soldats, pistolets à la ceinture, entrent dans la cuisine. Ils veulent manger et demandent à ma mère de leur faire une omelette. Toute tremblante, je vais chercher les œufs et le petit bois sous la surveillance d'un des trois soldats. Tout en descendant les marches qui mènent à la cave, l'Allemand me dit « Tu as peur ?»« Oui, » réponds-je. « Si vous faites ce que nous vous demandons, » me dit-il, « il ne vous arrivera rien. » Le déjeuner est terminé. Avant de repartir, ils se recoiffent devant un petit miroir, prennent leur pistolet, la porte est ouverte, ils sont maintenant dehors.
Nous pensons à mon père et à tous les hommes qui ont été amenés. Ce sont toujours les mêmes pensées qui reviennent. Où sont-ils? Reviendront-ils? Seront-ils faits prisonniers? Nous voudrions avoir des nouvelles de la ville. À l'heure où nous sommes, ce jour-là, nous n'en savons pas plus. Le soldat allemand, lui aussi, nous explique en français qu'il ne faut pas que nous quittions notre maison, car si d'autres de ses collègues reviennent et que la porte est fermée, ils la casseront, mais ils rentreront. En début d'après-midi, mon père revient, il est fatigué, abattu et va s'allonger. Il donne quelques détails. Là-bas, ils sont passés au crible. Il y a monsieur le maire qui donne des renseignements de tous ces hommes. Dans notre rue, Maurice n'est pas rentré ce triste jour. Sa femme est effondrée. Nous avons appris par la suite qu'il avait fait partie de ceux qui ont été envoyés dans les camps de concentration. Je me souviens également que dans l'après-midi, deux autres chenillettes sont passées dans la rue venant de Quézac. C'est derrière les persiennes closes que nous avons espéré qu'elles passeraient sans s'arrêter et que le cauchemar serait terminé.
Bonjour, dans le cadre des 80 ans de la rafle de Figeac, Gamze et Yasmine vont vous raconter ce qui s'est passé à Cardaillac. Quand a eu lieu l'événement et quel était son objectif ?
L'objectif pour cette journée du 11 mai 1944 était de visiter et d'occuper presque toutes les communes de la zone située autour de Figeac. Les troupes venant d'opérer si durement à La Capelle et au Bourg sont les mêmes qui, en haut de la côte de Plagnol, avaient pris la route de Paris.
Que s'est-il passé dans ce village ?
La colonne qui avait continué en direction de la Châtaigneraie était arrivée à Cardaillac vers 6h du matin. En y pénétrant, les soldats tirent des rafales de mitraillettes de tous côtés pour affoler la population qui court en tous sens à la merci des balles ennemies. Entendant cette fusillade sous sa fenêtre et dans l'impossibilité de se rendre compte de ce qui se passe, le maire croit à l'exécution de sa famille et à celle des deux amis traqués par la Gestapo venue coucher chez lui. Après avoir cerné la localité, ils installent une mitrailleuse dans le clocher de l'église.
Les officiers parlementant longuement avec le maire, monsieur Lafage, qui ne se laisse aucunement influencer par leurs menaces. Durant l'interrogatoire, les soldats font sortir des maisons toutes les hommes de 16 à 60 ans et les amènent sur la place, effectuant un tri. Deux hommes qui ont essayé de s'enfuir furent abattus. Les SS très nerveux ouvrent le feu sur tout ce qui bouge. C'est ainsi qu'ils tirent sur deux femmes qui gardaient leur troupeau dans un pré. Une fut abattue et l'autre grièvement blessée. Finalement, tous les otages seront relâchés.
Le lendemain 12 mai, une autre colonne allemande cerne le village et effectue alors un pillage systématique. Cependant, encore une fois, grâce au maire qui explique à l'officier commandant le détachement qu'une unité allemande est passée hier et a effectué la vérification de l'identité des habitants, le convoi repart en direction de Figeac.
Pour terminer, nous allons vous présenter un passage de la rafle.
C'est ainsi que le docteur Boudou de Figeac et M. Hector Henrique avaient été alertés par Mme Lafage et avaient eu le temps de s'enfuir par la fenêtre en suivant le lit du ruisseau qui coule au pied de la maison. Ils avaient gagné les bois. Mme Lafage ayant immédiatement refait les lits, les Allemands, dans leur visite de la maison, ne trouvèrent rien de suspect.
5 radios, un seul nom. Présence. La radio chrétienne de votre région. Présence. Une idée qui fait son chemin.
Dans le cadre des exactions de la division Das Reich dans le Ségala en mai 1944, la commune de Théroux a payé un lourd tribut. C'est ce que nous allons vous raconter. Pendant l'occupation, la situation relativement isolée du village de Théroux constitue un avantage pour les groupes de résistance du secteur. Dans les granges s'accumulent vivres et vêtements, malgré les risques encourus par les propriétaires. toute la population apporte son aide aux résistants. C'est pour cela que l'armée allemande va apporter une attention particulière au petit village de Terrou. Le 11 mai 1944, la division Das Reich venant de Figeac ratisse le Ségala. 5 chenillettes allemandes quittent Gorce en direction de Terrou. La route est très accidentée et les envahisseurs ne sont pas très rassurés. Ils craignent sans doute de tomber sur des embuscades. Pour se protéger, ils tirent à balles incendiaires dans les broussailles. Ils brûlent ainsi plus de 50 hectares de bois. Arrivés au village, les routes sont barrées, les maisons fouillées. Les hommes valides et quelques femmes ont réussi à fuir et à gagner les bois proches. Les personnes restantes, femmes, enfants et vieillards, sont rassemblées et, sous la menace des armes, sommées de dire où se trouve le maquis. Ils en profitent pour piller et emporter tout ce qui les intéresse. N'ayant pu obtenir aucun renseignement, les Allemands, furieux de n'avoir pu arrêter un plus grand nombre d'hommes valides, menacent de fusiller tous les otages si l'on refuse de leur dire où se trouvent le maire et le curé. N'obtenant aucune information et pour se venger, ils mettent leurs canons en batterie et bombardent le hameau voisin de la Descargue, situé à quelques kilomètres. Après cette action, ils décident de partir vers Figeac. Mais les Allemands n'en ont pas fini avec le village du Terrou et ils vont rapidement revenir. En effet, le 1er juin 1944, au soir, ils sont de retour. Les habitants sont prévenus par les hommes du maquis du retour des Allemands. En effet, la division SS Das Reich, stationnée à Montauban, vient de déclencher une opération contre les maquis du Lot. Le lendemain matin, le 2 juin, un premier convoi passe sans s'arrêter. Mais à 9h, un second s'arrête. Les soldats font sortir la directrice de l'école privée et jettent les bombes incendiaires. L'immeuble s'enflamme. Mais, furieux de ne trouver que quelques habitants, les hommes ayant fui dans les bois, ils entreprennent d'incendier systématiquement toutes les maisons désertées par les occupants. Le bourg s'embrase et brûle toute la journée. Même l'église n'est pas épargnée. Terrou n'est plus qu'un village fantôme. Le village a reçu en septembre 1945 la médaille de la Résistance. Il est l'une des 17 communes de France qui furent ainsi distinguées.
C'était votre émission Parole de jeunes sur les ondes de votre radio chrétienne de proximité.